Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la curiosité, nouveau rendez-vous de la rentrée à 14h sur RTL. On est donc ensemble pour une heure avec Sidonie. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, vous nous connaissez peut-être si vous écoutiez l'émission l'année dernière de 20h à 22h. Pour tous ceux qui nous découvrent, la curiosité c'est de l'aventure, de la science, de l'histoire, des sagas musicales, des stars, des héros et tout ce qui concerne notre quotidien.
Tiens, comme les impôts, on voudrait bien y échapper, mais ils se rappellent à notre souvenir chaque rentrée. Là, c'est le dernier tiers provisionnel en attendant les taxes d'habitation, les taxes foncières. En même temps, ça sert quand même à payer beaucoup de choses.
Hein. Il faut les impôts, payer, faut ces impôts. Bien
voilà.
Sûr.
Nous, on a décidé de découvrir les impôts les plus fous, des perruques aux cartes à jouer. Vous verrez que ceux qui nous gouvernent depuis des siècles n'ont jamais manqué d'imagination.
Et tout de suite, une organisation qui est revenue violemment dans l'actualité. Cet été, on vous raconte l'histoire du Ku Klux Klan.
La curiosité est un vilain défaut.
Oui, ces cris paniqués sont ceux des manifestants anti-racisme qui courent pour échapper à cette voiture folle qui fonce sur eux. Cet événement tragique a été le point d'orgue d'une journée de chaos dans les rues de Charlottesville. Plusieurs centaines de néo-nazis, suprémacistes blancs et autres nostalgiques de la ségrégation étaient venus manifester, fortement armés et prêts à en découdre.
Pour découvrir l'histoire du Ku Klux Klan, nous recevons André Caspi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur émérite à la Sorbonne. On vient d'entendre un extrait d'un sujet du journal d'RTL cet été, juste après le 12 août à Charlottesville aux États-Unis. Le clan, le Ku Klux Klan, était-il à l'origine de cette manifestation qui a dégénéré?
Oui et non. C'est-à-dire que le Ku Klux Klan faisait partie de la droite alternative qui avait pour but de se réunir à Charlottesville. Mais il n'y avait pas que le Ku Klux Klan, il y avait d'autres mouvements d'extrême droite. Et précisément, ce qui caractérise cette réunion, c'était la volonté de tous ces groupes de s'unir, de constituer un ensemble, ce qu'on appelle la droite alternative aux États-Unis. Mais ça n'est pas quelque chose de structuré, ça n'est pas un parti,
oui.
C'est simplement un ensemble de mouvements.
On les appelle aussi les suprémacistes. Pourquoi? D'où vient ce terme?
Parce qu'ils exaltent la suprématie de la race blanche. Ils croient que la race blanche est supérieure à toutes les autres et qu'en conséquence, il faut la défendre contre les menaces qui pèsent sur elle, par exemple la race noire, la race mexicaine. Ils croient au racisme, c'est-à-dire que depuis la fondation du clan, il y a cette idée que la race fait partie de l'histoire de l'humanité. On sait aujourd'hui, en dehors du clan, en dehors de la droite alternative, que la race n'a pas de sens. Mais
donc c'est
eux,
une idéologie pour eux d'une certaine
pour
façon,
eux,
la race.
Pour eux, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est ce qui les unit. Donc ils sont avant tout dans la défensive. Ils souhaitent maintenir ce qu'ils appellent la supériorité de la race blanche.
André Caspi, on va revenir aux origines de ce nom Ku Klux Klan, pas toujours facile à prononcer. Il vient d'où ce mot? Ça veut dire quoi?
On pourrait se contenter de dire le clan. Ça serait encore plus simple.
Je pense qu'on dira un peu ça pendant les...
J'imagine
pendant
que chaque mot a sa valeur.
Bien
Ku
sûr.
Klux Klan.
Eh bien, on ne sait pas très bien d'où ça vient, pour répondre à votre question. Vraisemblablement, il semblerait, je dis bien avec toutes les précautions nécessaires, que cela vienne du grec kuklos, qui signifie un cercle. Mais pourquoi le Ku Klux Klan? C'est une origine mystérieuse qui remonte à la guerre de sécession, c'est-à-dire au milieu des années 1860.
Alors, qui l'a créé, ce clan?
Alors, ce clan, il a été créé à la suite de cette guerre civile qui a opposé le Sud, défenseur de l'esclavage, au Nord, qui a été favorable à l'abolition. Et c'est le Nord qui a gagné. Et c'est le Nord qui a gagné sous la houlette d'un président républicain qui s'appelait Abraham Lincoln. Le Sud, vaincu, a cherché des moyens à survivre à sa défaite. Et pour cela, un certain nombre de gens, dont un ancien général de la armée sudiste, ont décidé de se réunir pour faire peur à tous ceux qu'ils estimaient être les ennemis du Sud, c'est-à-dire les Noirs qui venaient d'être libérés, les Républicains du Nord qui occupaient les États du Sud, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une organisation clandestine qui a pour but de faire peur, qui a pour but d'imposer le terrorisme, qui a pour but en somme de venger les sudistes vaincus.
Avec quelles actions? C'était quoi les expéditions menées par le clan, le Ku Klux Klan, dans ses premières années d'existence?
C'est-à-dire qu'il faut essentiellement faire peur. Faire peur à qui? Faire peur aux Noirs, parce que les Noirs viennent d'être libérés.
C'est quoi, des chevauchées la nuit, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire des réunions de nocturnes, non pas avec des grandes robes, parce que ça est revenu plus tard, mais surtout avec des cris, avec des motivations en somme qui sont particulièrement violentes, et puis aussi le meurtre. C'est-à-dire qu'au fond, l'assassinat fait partie de ces attaques-là.
Combien de victimes dans ces premières années?
On ne sait pas très bien combien il y en a eu. Ce qui est certain, c'est que ça a duré 3-4 ans et qu'au bout de 3-4 ans, le clan a disparu parce qu'à cette époque-là, le gouvernement central des États-Unis, le gouvernement national, celui qui avait remporté la victoire, a estimé qu'il fallait faire voter des lois qui permettaient en somme d'interdire le clan et de rétablir l'ordre dans les États du Sud.
Alors ça, c'est passionnant parce que on va voir, grâce à vous, André Caspi, qu'au fil des décennies, des siècles même, le clan, comme ça, a été très puissant, quasiment disparu. C'est vraiment une trajectoire comme ça sinusoïdale. Et les ennemis du clan, ils se sont, si j'ose dire, enrichis. Ils se sont inventés de nouveaux ennemis au fil des décennies. Ça a commencé par les Noirs, vous avez dit les Mexicains, il y a aussi les Juifs, et puis là, il y a les féministes, il y a eu les communistes, c'est ça? Ils s'inventent de nouveaux ennemis?
C'est-à-dire que c'est avant tout un mouvement réactionnaire. Oui. Alors, il réagit contre ce qui paraît essentiel dans la période que l'on souhaite étudier. Mmh. Alors, quand il s'agit de la guerre civile, c'est-à-dire de la guerre de sécession, c'est contre les Noirs. Quand il s'agit des années 1920-1930, c'est à la fois contre les catholiques et contre les juifs, c'est contre les immigrants, c'est contre ceux qui ne veulent pas de la prohibition des boissons alcoolisées, parce qu'à cette époque-là, elle est en place dans la législation américaine. C'est-à-dire ils sont contre tout ce qui pourrait être considéré comme la modernisation de la société. Ce sont des réactionnaires. Et en tant que réactionnaires, ils souhaitent le retour à un passé, et à un passé qui est un peu mythologique.
Le clan, le Ku Klux Klan, qui a compté jusqu'à 5 millions de membres, c'était à la fin des années 20 aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont combien? Comment sont-ils recrutés? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous.
RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Le Ku Klux Klan, vous avez entendu parler de cette organisation raciste et violente cet été, et vous vous êtes peut-être dit, comme nous, mais pourquoi un tel groupe est-il encore autorisé à manifester? Pour répondre à cette question et à beaucoup d'autres, l'historien André Caspi est notre invité. Le Ku Klux Klan, est-ce qu'il a déjà été interdit dans l'histoire, dans son histoire?
Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à la fin de la période qui a suivi la guerre civile, c'est-à-dire en 1870-1871, il n'a pas été vraiment interdit dans les années 20. Il s'est dissous de lui-même par différentes affaires qui l'ont affecté. Il n'est jamais complètement interdit parce qu'il faut bien se reporter à la Constitution des États-Unis. Le premier amendement qui a été adopté en 1790, c'était pas hier. Ce premier amendement établit la liberté d'opinion. Par conséquent, on ne peut pas interdire un mouvement uniquement en fonction de ses opinions. On peut l'interdire en fonction de ce qu'il
de
fait.
De ses actes.
C'est-à-dire, dans ce cas-là, on n'interdit pas le mouvement. On poursuit ceux qui ont commis les actes. C'est-à-dire que si, par exemple, des membres du clan assassinent, l'assassin sera poursuivi.
Donc ça veut dire que ces membres du clan, par exemple, disparaissent, mais que le nom clan et l'organisation demeurent. Donc elle peut vivre jusqu'à la fin des temps, finalement.
Ou jusqu'à la fin des temps, ou en tout cas jusqu'à la fin des États-Unis. Ça, je ne peux pas vous garantir que ce soit
la fin des temps, en effet.
Et cette question, elle est tellement intégrée à l'histoire américaine, le premier amendement, que ça n'est pas un débat, l'interdiction du Ku Klux Klan aujourd'hui aux États-Unis, malgré ce qui s'est passé
à
cet été.
À côté du clan, il y a aujourd'hui des mouvements néo-nazi.
Oui.
Le néo-nazisme n'est pas interdit. Mmh. Ce qui est interdit, ce sont les conséquences du néo-nazisme, c'est-à-dire l'assassinat s'il y en a, des mouvements violents s'ils se produisent. Mais en tant que mouvement idéologique, on n'interdit pas.
Oui, bien compris. Combien ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Parce qu'on dit organisation secrète depuis tout à l'heure.
Oui, par définition, c'est ça qui est difficile. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un clan. Il y a des dizaines de clans, c'est-à-dire qu'il suffit d'un petit groupe dans un État qui se réunissent pour défendre la race blanche, pour s'opposer aux immigrants, pour combattre les homosexuels, les catholiques, les juifs. Bon, c'est un clan, mais combien sont-ils ? Aujourd'hui, ils vont être dans ce petit groupe 50, demain, ils vont se disputer, ils ne seront plus que 40, puis subitement, ils auront un apport qui va leur permettre d'être 60. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont aux environs de 5000.
Comment est-on recruté par le Ku Klux Klan ou comment entre-t-on, est-ce que c'est une démarche volontaire, dans ce clan ?
C'est une société initiatique. C'est-à-dire qu'au fond, il faut connaître quelqu'un qui est déjà dans le clan et puis dire « bon, bah, moi je me sens très proche de cette idéologie, par conséquent je veux adhérer au clan ». Mais ça ne signifie pas qu'on reçoit une carte, ça ne signifie pas que…
Il y a des réunions ?
Oui, il y a des réunions, mais c'est-à-dire, il y a surtout des démarches violentes, c'est-à-dire on met un costume particulier… On va à l'attaque de ceux que l'on combat, mais ça n'est pas une organisation, c'est pas un parti, encore une fois. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que sur une population de 320 millions d'habitants, c'est la population des États-Unis, 5000 personnes, c'est trois fois rien. Ouais. Mais ça peut être beaucoup dans la mesure où ils font du bruit, dans la mesure où ils pratiquent la violence, dans la mesure où ils cherchent par tous les moyens à se faire connaître des médias.
Oui, et où on a aussi un président américain dont les liens supposés avec ce mouvement posent question. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je vous vois être dubitatif, mais ça sera un thème évidemment passionnant à aborder dans la curiosité avec vous, André Caspi. J'ai lu qu'ils avaient créé un réseau social spécifique justement pour échanger, pour recruter. C'est vrai ça ?
Oui et non, parce que vous comprenez bien que les réseaux traditionnels, que ce soit Google ou Yahoo, etc.
Oui, ou Facebook ou Twitter.
Ne souhaitent pas donner la parole au clan. Donc il faut à ce moment-là trouver d'autres moyens pour circuler et faire circuler les nouvelles, les informations.
Les rendez-vous,
bien sûr.
Alors ça passe par quoi ?
Alors ça passe en effet par des réseaux sociaux qui sont parallèles, mais qui sont très limités en fait. Encore une fois, il faut bien retenir que ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement, ce n'est même pas des groupes, ce sont des groupuscules.
Alors ce n'est pas un parti, ce n'est pas une organisation, et pourtant est-ce qu'il y a un chef ? Ou c'est une grande démocratie, le Ku Klux Klan ?
Il y a un chef dans chacun de ces groupes. Alors, si vous vous reportez au clan des années 1920, oui, là, il y avait un chef qu'on appelait le grand dragon, ou encore au-dessus de lui, il y avait l'Imperial Wizard, c'est-à-dire
le magicien
impérial, l'empereur, si vous voulez. Mais aujourd'hui, chacun de ces groupes a un chef. C'est ça qui est formidable, c'est que quand vous avez un groupe, automatiquement il y a un chef, il y a un trésorier, et c'est exactement comme...
Donc c'est une organisation anonyme presque, on ne sait pas sur qui mettre la main.
Non, absolument pas.
Ouais, c'est l'une des difficultés, j'imagine, de la police américaine. Un mot sur ces années 20, je disais tout à l'heure 5 millions de membres, c'est monté aussi haut.
Là c'est monté très haut, parce qu'à l'origine, le clan c'est une organisation plus ou moins structurée, dans le sud des États-Unis. Mais dans les années 20, à ce moment-là, le clan devient national. C'est-à-dire qu'il ne se limite plus au sud, aux États du Sud, mais on le retrouve dans le Midwest et on le retrouve encore dans d'autres États des États-Unis. C'est pour cela qu'il a véritablement explosé, si on peut dire, avec 5 ou 6 millions d'adhérents. Et c'est une période très importante pour le clan, puisque c'est le moment où l'immigration de masse est arrivé jusqu'en 1924, une immigration qui est catholique, qui est juive, autrement dit, les ennemis du clan. C'est le temps où les femmes se libèrent, donc le clan est contre le féminisme. C'est le temps où le clan a besoin, en somme, de s'opposer à tout ce qui est moderne.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Je veux tout le monde sur un seul rang, juste devant moi ici.
Ce sont les préparatifs d'une démonstration de force, d'une démonstration de haine.
La curiosité est un vilain défaut.
Brian est un clan man, un membre du Ku Klux Klan.
Nous sommes la race la plus élevée de cette planète.
Dans le Ku Klux Klan. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
K, les trois lettres du Ku Klux Klan ont même inspiré Eddie Mitchell. Voilà,
ça, c'est une perle de notre réalisateur André Facetta. Voilà. Bravo, on la connaissait pas, cette chanson.
C'est surprenant. En tout cas, elles sont depuis plus de 550 ans synonymes de violence raciste. On vous dévoile l'histoire de cette organisation grâce à André Caspi, qui est spécialiste des États-Unis, historien et professeur émérite à la Sorbonne. Alors, on va parler des symboles, des rituels. Il y a cette cagoule blanche, là, qui a été détournée, d'ailleurs, par de nombreux magazines cet été, au moment des événements de Charlottesville, notamment pour montrer comment Donald Trump était influencé par les idées du Klan. Est-ce qu'elle fait partie de leur panoplie depuis l'origine? Vous nous avez dit non tout à l'heure, donc c'est arrivé quand, en fait, cette cagoule, grandes robes blanches et ces cagoules?
Tout ça, c'est la faute d'un cinéaste qui s'appelle David Griffiths et qui a fait un film en 1915 qui s'appelle « La naissance d'une nation », « The Birth of a Nation ». C'est un film muet qui raconte le Klan, mais le Klan des années de la guerre de sécession. Et à partir de là, Griffiths a un peu inventé des choses de telle façon que ça soit cinématographique.
Plus visuel.
Donc, il a inventé la croix, il a inventé la cagoule. Et depuis lors, le Klan a repris ces images qui proviennent du film de David Griffiths.
Ah, c'est du pur marketing, c'est de la pure représentation alors.
C'est-à-dire qu'en fait, le but par exemple de ces robes, le but de ces cagoules, c'est de se dissimuler. Mais il faut ne pas se faire reconnaître. C'est une société initiatique, par conséquent, c'est le mystère. Mmh. Et plus c'est mystérieux, plus ça fait peur. Donc la cagoule...
Puis un côté fantôme aussi avec
la cagoule est faite à la fois pour protéger l'anonymat et pour inspirer la terreur à ceux auquel le clan souhaite du mal. En ce qui concerne la croix, alors la croix, c'est une croix latine, c'est-à-dire une croix comme on en voit un peu partout chez nous, que l'on fait brûler, de telle façon que là aussi, ça soit quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui inspire la terreur. Vous comprenez ? Le but, c'est de ça. Et évidemment, sur les insignes du clan, il y a non seulement la croix, mais aussi la goutte de sang, très importante, la goutte de sang qui rappelle le sacrifice du Christ.
Est-ce qu'aujourd'hui, toujours, il y a ces rituels, il y a ces sorties avec ces cagoules blanches, il y a ces chevaux déguisés, il y a cette croix que l'on brûle pour le Ku Klux Klan?
Il y a toujours la cagoule, parce que ça fait partie de l'uniforme, au fond. Au même titre que dans d'autres sociétés initiatiques que je ne veux pas nommer, il y a aussi des uniformes. Là, c'est un uniforme qui est traditionnel. Alors, dans certains clans, puisqu'il y en a plusieurs aux États-Unis, la cagoule peut être de couleurs différentes, suivant le grade que l'on a, ou bien la cagoule est complètement blanche. C'est très variable. Mais, si vous voulez, on ne peut pas imaginer un clansman qui participe à une réunion du clan sans qu'il revête une grande robe, c'est-à-dire au fond sans qu'il se mette en uniforme.
Est-ce qu'on brûle toujours des croix alors au Ku Klux Klan? Est-ce qu'il y a des nuits où on brûle?
Oui, on le fait.
Et ça a quel sens?
De temps en temps. Ouais. Mais le but là encore, c'est d'annoncer qu'il va y avoir des actes violents, que le clan va entrer en action et que les ennemis du clan n'ont qu'à bien se tenir parce que vraisemblablement ça va mal finir. Et en effet, ça a mal fini pour un certain nombre d'entre eux, parce que même dans les années récentes, il y a eu des assassinats qui ont été commis par des membres du clan, et des assassinats, notamment dans les États du Sud. Évidemment, les assassins ont été poursuivis, mais je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clan en tant que tel n'est pas considéré comme responsable des assassinats.
Est-ce qu'il y a un rituel d'insertion, d'intégration quand on arrive au Ku Klux Klan? Est-ce qu'il y a une cérémonie
Oui, bien sûr, il y a une cérémonie comme dans toutes les sociétés initiatiques. C'est-à-dire qu'au fond, on jure que l'on va défendre la race blanche, on défend tous les principes qui sont ceux du clan. Et ça fait partie, si vous voulez, de cette initiation. Mais c'est ce qui attire, au fond. Parce que beaucoup de ces esprits dérangés ont besoin de trouver des appuis. Et ben, ils les trouvent au clan. Et ils sont dans un groupe qui partage leurs idées un peu folles et qui, en somme, peuvent travailler ensemble.
Mais alors justement, André Caspi, on disait tout à l'heure qu'à la fin des années 20, ils étaient 5 à 6 millions aux États-Unis. Oui. Là, on peut imaginer qu'ils recrutaient dans toutes les couches de la société.
Oui,
Des
méthodes qui relèvent, de la publicité la plus moderne.
À l'époque.
Ah oui, à l'époque, ils faisaient ça systématiquement.
Aujourd'hui, il y a qui au Ku Klux Klan. C'est une société secrète initiatique, donc c'est difficile de répondre, j'ai bien compris. Mais il peut y avoir des gens très riches, des bourgeois, ils recrutent
jeunes,
plutôt dans des petits
vieux.
Villages, des jeunes.
Alors,
un peu perdus.
Je dirais que d'abord, c'est surtout un recrutement qu'on voit dans les États du Sud.
D'accord.
C'est-à-dire que le Klan a reflué dans les États du Sud et aussi un peu dans les États de l'Ouest. C'est plus particulièrement dans les milieux défavorisés. Il y a beaucoup d'anciens détenus des prisons américaines qui, sortant de leur prison, vont se retrouver dans des associations d'extrême droite, notamment dans le Klan. Ça fait partie, si vous voulez, d'une sorte d'intégration lorsque l'on est complètement en dehors de la société. C'est une manière, au fond, de rentrer dans une partie de la société.
Mmh. On parlait tout à l'heure, André Caspi, de la hiérarchie au Ku Klux Klan. Comment elle se visualise à travers les tenues, notamment ?
Alors, dans certains groupes du clan, oui. Dans d'autres clans, non. C'est très variable, encore une fois.
Les couleurs de robe, c'est ça ?
La couleur de la robe, ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir une robe rouge, une robe verte, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est que, comme c'est une société initiatique, il faut savoir qui est membre du clan. Alors, lorsque vous êtes membre vous-même du clan et que vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question, êtes-vous membre du clan ? Mais pour poser cette question, vous lui dites AYAK, A-Y-A-K, c'est-à-dire Are you a clansman ? Êtes-vous membre du clan ? Et l'autre doit répondre AKOA, Yes, I am a clansman. Donc vous voyez, il y a une sorte de reconnaissance.
Et de langue.
Il y a aussi une sorte de langage codé. Est-ce que Donald Trump parle ce langage codé ? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Le clan est dans l'œil de notre curiosité sur RTL et c'est l'historien André Caspi qui nous dévoile les contours de cette société secrète. On évoquait tout à l'heure la proximité de Donald Trump pour certaines idées du Ku Klux Klan. Est-ce que son discours a donné des ailes aux suprémacistes ?
Dans un certain sens, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, dans une élection présidentielle, il y a deux candidats principaux, le républicain, le démocrate ou la démocrate cette fois-ci. Et il est évident que si le clan doit choisir, il choisira plutôt le républicain, puisque le républicain est beaucoup plus à droite que la démocrate, encore que. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas dire que Donald Trump soit membre du clan. Il n'est pas membre du clan.
Mais est-ce qu'il a des liens avec le Ku Klux Klan,
non.
Donald Trump ?
Ce que l'on constate simplement, c'est que l'un des grands dragons du clan, David Duke, a trouvé que Donald Trump défendait des idées proches des siennes.
Oui, il a remercié sur Twitter d'ailleurs.
Et David Duke a dit « je soutiens Donald Trump ». Et Donald Trump, en bon politique, quand il reçoit un soutien, ne va pas dire « je n'en veux pas ». Autrement dit, il faut des voix.
Enfin, un candidat, on essaie toujours de se transposer en France. André Caspi, un candidat à la présidentielle aurait reçu le soutien d'un mouvement néo-nazi français.
Oui,
évidemment rejeté le plus vite possible.
En France,
les
mouvements néo-nazis sont interdits.
Oui.
Donc, autrement dit, c'est tout
c'est
à
vrai,
fait différent.
La question ne se pose pas vraiment comme ça.
Alors, Donald Trump a quand même dit qu'il ne voulait pas du soutien du clan, ça il l'a dit, mais il ne peut pas empêcher les membres du clan de voter pour lui.
Alors, il a fait de la politique, quoi.
Il y a une légende qui veut que le père de Donald Trump, Papa Trump, ait été membre du clan.
Pourquoi ? Alors, vrai ou faux ?
Parce qu'en 1927, le père de Donald Trump a été, paraît-il, arrêté dans une manifestation du clan et son nom a paru dans les journaux. D'abord, le papa de Donald Trump en 1927 avait 21 ans, je précise.
Oui.
Et deuxièmement, il a été immédiatement innocenté parce qu'il n'avait aucun lien avec le clan. Donc dire que dans la famille Trump, on est proche du clan, c'est une absurdité, ça ne correspond pas à la réalité historique.
Eh ben voilà, ça, les choses sont dites, elles sont dites clairement, André Caspi, merci. On a vu que l'histoire de ce Ku Klux Klan avait été marquée par des variations d'influence, de pouvoir jusqu'à 5-6 millions de membres. Et puis le mouvement aurait pu disparaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi. Qu'est-ce qui l'a fait renaître ? Est-ce que c'est le mouvement pour les droits civique dans les années 50-60 qui d'un seul coup leur a donné de nouveaux opposants, de nouvelles cibles.
C'est le mouvement pour les droits civiques et c'est aussi l'anticommunisme, les deux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un mouvement qui a pris racine au moment de la guerre froide. Alors, la guerre froide étant terminée, ça n'est plus évidemment l'anticommunisme qui domine, encore que ce soit toujours une partie de l'idéologie, mais c'est aujourd'hui l'hostilité à la progression sociale des Noirs, c'est l'hostilité à l'immigration illégale et tout notamment à l'immigration latino-américaine, c'est l'hostilité bien sûr aux catholiques, aux juifs, ça n'a pas changé, c'est l'hostilité aux féministes, c'est l'hostilité aux homosexuels, ça fait beaucoup aussi, hein, tout cela. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce
des
que
gens qui
voit,
ont assez peu d'amis finalement.
Ils ont assez peu d'amis, mais ils ont assez peu de points positifs. C'est-à-dire que c'est avant tout, je le répète, un mouvement réactionnaire. C'est un mouvement qui ne veut pas de la modernité. Et c'est pour cela qu'il se trouve à l'extrême droite, qu'il combat tout ce qui peut être nouveau, mais avec évidemment des moyens violents que nous-mêmes nous sommes obligés de combattre.
Bien sûr, et vous nous avez parlé des moyens utilisés dans les premières décennies, les premières années du clan, donc c'est lynchage, c'est chevaucher, la nuit qui visait les Noirs. Dans cette période des années 1950-60, donc le mouvement des droits civiques aux États-Unis, ils utilisent d'autres moyens, c'est plutôt des bombes, c'est ça ?
Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois on peut bombarder des églises, comme ça a été le cas, je crois, en 1963.
Oui, en Alabama, à Birmingham.
Voilà, on peut également tuer des défenseurs des droits civiques, ça a été le cas à plusieurs reprises. Donc ça, c'est toujours, si vous voulez, la violence pour faire peur, pour montrer en somme qu'ils sont là et qu'ils défendent des idées que nous condamnons, bien sûr, mais qui correspondent malgré tout à une partie, une très faible partie de l'opinion publique.
Est-ce qu'on peut dire, André Caspi, que le clan est impliqué dans l'assassinat du pasteur Martin Luther King ?
Jusqu'à maintenant, non, rien ne le prouve.
Mais ils ont assassiné d'autres leaders du mouvement, c'est ça ?
C'est étonnant, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on ne sait pas combien de personnes ils ont assassinées, et ça me paraît fou, ça.
Non, parce que, attendez, j'ai publié un livre sur l'assassinat du pasteur Martin Luther King.
Donc vous savez dans le détail qu'on ne peut pas dire.
Oui, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ce que je sais, c'est qu'au fond, c'était un tueur isolé, ça n'était pas un complot, sauf que ce tueur avait des liens avec des mouvements d'extrême droite, mais pas forcément avec des mouvements du clan. Vous savez, des mouvements d'extrême droite, il y en a beaucoup aux États-Unis, et comme ailleurs. Et c'est en somme contraire à la réalité historique de dire que le clan est responsable de l'assassinat du pasteur King.
Est-ce qu'ils revendiquent leurs actions ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Ku Klux Klan revendique, ou dans les dernières décennies, ses actions ?
Ils le revendiquent, oui, mais pas trop quand même, parce que plus ils revendiquent et plus ils courent le risque d'être passibles d'un jugement. Donc ils se contentent, si vous voulez, de laisser faire et puis d'encourager, dans toute la mesure du possible, les clansmen pratiquer la violence, puisque la violence, c'est le moyen d'action favori des membres du clan.
Merci beaucoup, merci André Caspi de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis et professeur émérite à la Sorbonne. Merci, à bientôt.